Bonjour à tous et à toutes. Merci Yves pour cette introduction parce qu'effectivement, nous allons parler de la nouvelle création que nous sommes. Nous sommes faits pour Dieu. C'est une très belle et très profonde parole. Nous sommes faits pour lui. Nous avons été créés pour lui. Nous n'avons pas été créés nous-mêmes. De la même manière que la terre, les cieux et la terre ont été créés au commencement, suite à un tohu-bohu, le ciel et la terre ont été créés pour Dieu. Vous êtes d'accord? Les cieux et la terre ont été créés pour manifester la gloire de Dieu. Je crois que je vais avoir des soucis avec ma voix. C'est pas grave. Les cieux et la terre ont existé pour manifester la gloire de Dieu. Et nous, en tant que nouvelle création, nous existons pour manifester la gloire de Dieu. Pour que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Nous sommes faits, nous avons été créés pour le Seigneur. Je vais reprendre le verset qu'a pris Didier la semaine dernière, quand il nous parlait de porter sa croix. Je vais m'attarder ce matin sur la première partie qui consiste à renoncer à soi-même. On trouve ce texte, souvenez-vous, dans Matthieu 16, verset 24. Et Jésus va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, ça dépend de votre traduction, qu'il renonce à lui-même. » C'est solennel. Il n'y a pas 36 choix. Qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Sous-entendu, celui qui ne renoncera pas à lui-même ne pourra pas porter sa croix et ne pourra pas me suivre. C'est une pensée extrêmement importante pour nous. Il y a tellement de choses qui sont résumées dans cette pensée de Jésus. Je pense que quand il parlait, quand il a annoncé ce verset à ses disciples, cette parole de vie, il avait devant lui cette parole signifiait toute la création de son Père et surtout toute l'œuvre de son Père qui repose sur certains fondements. Il y a la foi, il y a la prière, etc. Mais il y a un fondement dont je vais vous parler ce matin, qui est celui du renoncement. Renoncer à soi-même. Et on va voir que c'est un fondement de son œuvre qui est institué dans sa création depuis le commencement. Dieu va commencer à créer sur la terre ce qu'il veut y voir. Et il va créer de l'herbe, il va créer des arbres, il va créer des animaux, chacun selon son espèce, avec la semence. Hein, vous connaissez ce passage du début de la Bible. Et au fur et à mesure, il trouvait que ces choses étaient bonnes. Mais s'il trouvait que ces choses étaient bonnes, c'est parce qu'il a pu les créer. Et s'il a pu les créer, c'est que la terre l'a laissé faire. C'est que la terre ne s'est pas opposée à la création divine. À chaque fois que le Père a dit « Dieu dit » et la chose s'est accomplie, la terre n'était pas là en train de dire « Tu crois ?» On ne pourrait pas faire autrement. On ne pourrait pas créer les animaux après l'homme parce que je pense que c'est une allégorie. Mais qui nous parle beaucoup, je trouve. Elle s'est soumise. elle a été obéissante. Elle a été soumise et elle a renoncé à elle-même. Elle a renoncé à dire à Dieu ce qu'il avait à faire. Parce que c'était son œuvre et pas la sienne. Et nous qui sommes une nouvelle création, le parallèle est vite fait. Dieu veut faire la même démarche dans nos vies en tant que nouvelle créature. Il veut manifester sa gloire. Il veut créer ce que lui veut y voir. Et pas ce que nous voudrions le voir. Et combien de fois je me surprends à demander à Dieu des choses pour ma propre vie, mais je ne sais pas si c'est sa volonté. Et je ferais mieux de chercher sa volonté d'abord, avant de lui réclamer telle ou telle chose. Parce que il m'a pris moi aussi dans un tohu-bohu. Et il a, par son esprit, fait de moi une nouvelle création. La terre ne s'est pas opposée. Elle a renoncé. Et c'est tout cela que Jésus voyait. Et il veut transmettre à ses disciples ce fondement inébranlable, ce fondement qui est incontournable. Celui qui veut me suivre, qu'il me suive. Je l'accepte. Au contraire, c'est merveilleux. Seulement, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il comprenne que, dorénavant, il y a un fondement auquel il ne peut pas échapper. C'est celui de renoncer à lui-même. Et on va voir tout à l'heure en quoi cela consiste. Et renoncer, c'est pas pour l'embêter. C'est simplement pour que le Père puisse créer, puisse avoir la pleine liberté de créer dans sa vie, dans notre vie, ce qu'il veut y trouver. Ce qu'il veut y voir. Et comment veut-il se magnifier? Comment veut-il se révéler? Comment veut-il se glorifier dans nos vies? En édifiant son Fils, Jésus-Christ. Rien d'autre. Parce que Christ est la partie visible de ce Dieu invisible. Dieu veut se révéler en Christ, en Jésus-Christ. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour devenir à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour revêtir la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour cela. Mais pour y arriver, Dieu nous doit trouver en nous aucune opposition. Aucune opposition. Et le premier qui s'oppose à Dieu dans son œuvre, c'est pas le diable. Même s'il l'a fait en premier dans des temps anciens, le premier c'est moi. C'est moi qui ai besoin de renoncer à moi-même. Chaque jour de ma vie. Pour lui laisser la place. Pour qu'il puisse établir ce qu'il veut voir. Parce que le but de ma vie, c'est pas ma propre satisfaction, c'est la sienne. Et rien que pour changer cette mentalité qu'on avait avant dans un autre royaume, avant notre conversion, c'était nous d'abord. Et il fallait que les choses soient faites selon nos plans. Cette mentalité doit changer. Elle doit mourir. Pour laisser apparaître une autre mentalité. Non pas ce que je veux, dira le Seigneur, mais ce que toi tu veux. Et Dieu sait que c'est impossible. On ne peut pas y arriver. Il le sait. On a une nature qui s'oppose au Saint-Esprit. Donc, il va nous aider à comprendre qu'il faut qu'on meure à nous-mêmes et que surtout, que chaque jour de notre vie, le Saint-Esprit doit nous aider à renoncer pour lui laisser la place. Renoncer à se satisfaire soi-même. Renoncer à choisir soi-même ce qui est le meilleur pour moi ou pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus choisir. Ça veut dire qu'avant de choisir, Seigneur, inspire-moi et montre-moi ce que tu veux créer dans ma vie et à travers ma vie. Pour que ma vie de prière ait une résonance céleste et que mes yeux voient l'accomplissement de mes prières, il faut absolument que je m'aligne sur la pensée divine, afin que ce qui veut lui accomplir, comme étant les meilleurs, n'oublions pas, eh bien, puisse se faire parce que il y a quelque chose de très important, on va le voir, c'est que Dieu ne nous a pas fait robots. Et le diable, il ne l'a pas fait robot non plus. Les anges ne sont pas des robots. Nous sommes tous des êtres capables de choisir. C'est là que le bât blesse. Si encore il m'avait fait robot, des fois je me dis, tu aurais dû me faire robot. C'est vrai. Et que je choisisse tout de suite les choses de l'esprit, les choses qui te plaisent, les choses qui... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu a laissé sa création libre. Libre de se rebeller contre lui. C'est ce que Satan a fait. Libre de choisir la vie ou la mort. Libre pour nous de choisir la marche par l'esprit ou par la chair. Libre. Ça, c'est sa gloire. Nous sommes libres. Libres de choisir. Et parce que nous sommes libres de choisir, nous serons responsables. Et ce sera... Il n'y aura pas cette, il ne pourra pas y avoir cette réaction qu'a eu Ève et Adam. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est pas, non, non, c'est le serpent. C'est chacun repose la faute sur l'autre pour se dédouaner, croire que Dieu va. Non, 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 non. Nous sommes libres de choisir et nous sommes responsables. Ce principe-là que l'on trouve dans Genèse 2, verset 15, et vous allez voir que ce principe, il existe depuis la création. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on sait qu'il n'est pas mort physiquement. C'est une mort spirituelle. Mais on retrouve là le choix. Dieu donne le choix. Et on retrouve là la conséquence. Si tu choisis mal, tu mourras. Et c'est étonnant pour le Seigneur d'avoir fait cela comme ça, je trouve. J'ai du mal à comprendre. Un choix tellement, avec des conséquences tellement redoutables. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Et en cela, il y a quelque chose de Dieu qui est en nous, c'est que nous sommes capables de choisir, sélectionner, soit le bien, soit le mal. soit la marche par l'esprit, soit la chair. On le verra tout à l'heure. Dieu va placer au commencement de son œuvre le fondement incontournable du renoncement. J'ai placé un arbre là, mais tu dois y renoncer. Et si tu veux la vie, parce que je veux que tu aies la vie, eh bien, il faudra que tu manges de l'arbre de vie. Le renoncement est planté dans le décor du Seigneur. Et quand je reviens à la parole de Jésus, Jésus voyait tout cela. Et il voyait aussi les conséquences. Et il savait qu'il venait sur terre pour réparer ces conséquences. Et il savait aussi, à l'avance, que chaque fois qu'on ferait appel à lui, il pourrait réparer dans nos vies les mauvaises conséquences de nos mauvais choix. C'est extraordinaire, par sa grâce. Seigneur, ta grâce. Je la comprends peut-être pas profondément, mais je la veux. Purifie-moi de tous mes mauvais choix. Purifie-moi de cette faculté que j'ai de choisir à ta place. Et de t'imposer bien souvent ma volonté. De t'imposer bien souvent ma propre volonté. Il faut que tu crées en moi une œuvre qui me libère de cette faculté-là de toujours ou de souvent, peut-être pas vous, mais moi souvent, de me mettre en face et puis de dire non, je veux pas que tu crées ça comme ça, je veux que tu crées ça comme ça. Donc maintenant je vais jeûner, je vais prier pour que tu le fasses. Pardonnez-moi, je caricature, mais je suis comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Moi, je veux que tu aies la vie. Je veux que tu aies la vie. Et je veux que tu aies la vie en abondance. Parce que je suis venu pour te donner la vie. Mais il faut que tu choisisses de renoncer pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse pour que je puisse te remplir de ma vie. Donc, je ne dois trouver aucun obstacle, aucune résistance. Alors, mon esprit va t'aider à mourir à toi-même, et va t'aider à porter ta croix, on l'a vu dimanche dernier, et il va t'aider à renoncer. Il va te conduire dans la vérité. C'est pour ça aussi qu'il t'a été donné, pour t'aider à marcher dans les choses de l'esprit, mais pas seulement ça. Il va t'aider à renoncer à ta faculté de vouloir imposer à Dieu ta propre volonté et de vivre ta vie chrétienne comme tu l'entends, croyant que c'est comme ça qu'on se conduit dans le royaume. Alors on arrive à 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans l'original, c'est le mot création. Il est une nouvelle création. Et en plus, il y a la notion de c'est une nouvelle création qui est en train d'être créée. Voilà. Et qui sera fini un jour lorsqu'il y aura la pleine union entre la personne et son Dieu. Une création. Une création en train d'être créée. Et je le disais, et là ça nous concerne, c'est un rappel de véritablement faire attention de ne pas être en opposition avec l'œuvre que le Seigneur va faire dans nos vies. C'est primordial. la contestation va disparaître. L'opposition, mettez le synonyme que vous voulez. Parce que on va retrouver, nous en tant que chrétiens, la même liberté de choix. Parce que dans nos vies, Dieu va planter deux arbres. Il va planter l'arbre de la connaissance qui produit la mort, c'est notre vieille nature. Et il va planter l'arbre de vie, qui est la marche par l'esprit, et qui permet à Jésus de produire sa vie. Et là, nous sommes confrontés au même choix, avec les mêmes conséquences. La conséquence, c'est la mort. Mais la mort spirituelle. Mais je reste toujours dans l'amour de Dieu. Et je me rends compte que il y a des moments où j'ai pu faire un mauvais choix, et puis m'obstiner, et puis je sentais comme une mort en moi. Alors le Seigneur n'était pas parti, évidemment, il ne m'a pas abandonné, mais il y avait comme une mort qui était là et qui me... Et je me souviens, c'était notamment en prévision d'un déménagement, je voulais changer de région. Mais il y avait vraiment un sentiment de mort qui était là, de sécheresse. Je comprenais pas. Je vous parle de ça il y a pas mal de temps. Aujourd'hui, je comprends ce que c'était. J'ai choisi par moi-même. Et ce sentiment de mort m'a aidé à revenir dans des bonnes dispositions de cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait pas que je déménage. Voyez? Et c'est pédagogique. Et ça nous aide à être interpellés et à revenir vers celui qui veut nous donner la vie. Non pas, encore une fois, parce qu'il veut être méchant avec nous, mais parce qu'il a des projets de bonheur pour nos vies, mais dans la mesure où on cherchera à manger de l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie. L'arbre de vie. Donc il va placer ces deux arbres et nous aurons ce même choix. Et là, je vais énumérer une série d'exemples, mais vous avez compris que c'est pour toute notre vie. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes faits pour lui. Donc c'est sa loi qui doit dominer nos vies. Hein, j'ai l'habitude de dire un chrétien a deux jambes dans sa vie spirituelle, dans sa vie chrétienne pour marcher, deux jambes principales. Mais il y a une jambe, c'est l'adoration, la louange, c'est la première, c'est le fondement. L'adoration à celui, vers celui qui nous a tant aimés et qui justement est venu réparer le mauvais choix de nos ancêtres. L'adoration, la louange. Et là, nous avons tout le livre, entre autres, tout le livre des psaumes, fait par David, mais bref. Tout le livre des psaumes. Et puis, nous avons cette deuxième jambe. Et celle-là, on a peut-être tendance à l'oublier. C'est celle de l'obéissance. Quel autre livre dans la Bible, même si toute la Bible nous parle d'obéissance, mais quel autre livre pour nous apporter cette sagesse sur la parole de Dieu, sur l'obéissance, que celui des Proverbes, écrit par Salomon, qui avait reçu un don extraordinaire, celui de pouvoir conduire le peuple dans la sagesse de la parole. Vous vous souvenez tout au début, dans la création, Dieu dit, la parole s'est exprimée et la chose s'est accomplie parce qu'il n'y avait pas de résistance. Le livre de Proverbes nous emmène dans les détails de l'obéissance de la parole de Dieu dans nos vies, dans les détails, dans des détails. C'est le premier livre que j'ai étudié vraiment après ma conversion. Ah, j'ai été... Comment ? Alors, non seulement ébloui, mais repris d'une manière, je me suis dit, mais comment je vais vivre tout ça? C'est pas possible. Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, je suis là. C'est pour t'aider. Voilà. Faut pas l'oublier. Mais tu dois le comprendre. Mais tu dois l'accepter. Et pour que ces deux jambes puissent fonctionner, ça sera toujours sur la base du renoncement. Le renoncement à soi-même. Le renoncement à ce que l'on veut, dans les choses humaines, comme dans les choses spirituelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature sur ces bases-là. Alors les quelques exemples, c'est la création de notre couple, la création de notre famille, la création de notre accompagnement de nos enfants. Toutes ces choses-là sont des créations qui nous appartiennent, qui sont dans nos mains, où nous avons plein de choix à faire. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce que la parole est autorité. Et qu'il n'y ait rien en nous qui contrarie cette parole pour que Dieu puisse créer toutes ces choses à travers nous, d'une manière glorieuse, se magnifier, se répandre à travers notre obéissance. Là, il y a d'autres créations qui sont entre nos mains, celles de notre vie sociale, nos amis, etc. Il y a là quelque chose, encore une fois, il faut faire attention. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre vie professionnelle, c'était qui notre frère qui racontait l'histoire d'une connaissance à lui, qu'il avait trouvé un travail, arrêtez-moi si je me trompe, c'était Daniel Satori, et il avait trouvé un travail, et puis après, c'était clair que ça venait de Dieu, et il était bien. Et après, il en a trouvé un autre où il était mieux rémunéré, seulement avec une ambiance détestable. Et après, je ne sais plus, mais ça lui a fait très très mal. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. Mais vous voyez, c'est un exemple pour montrer que dans cette création de notre vie spirituelle, Dieu a son mot à dire, non pas encore pour nous faire de nous des marionnettes, puisque nous sommes libres. Non, pour que nous puissions vivre le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire manger le fruit de l'arbre de vie qui nous accordera la vie dans la plénitude. Et la vie, on a besoin de la vie, se trouve dans l'obéissance. Nulle part ailleurs. Et l'obéissance, on la prend à travers la souffrance. Comme Jésus. Et la souffrance, c'est le renoncement, en partie. C'est aussi porter sa croix, mais on l'a vu, dimanche dernier. Et puis, on arrive dans les choses spirituelles. Là encore, il y a des créations où nous sommes participants, acteurs, la création de notre vie d'église, notre vie dans le service pour le Seigneur, la création de notre vie de prière. Là encore, il faut faire très attention parce que Satan va vouloir nous infecter de son venin pour que l'on choisisse de marcher par la chair et de choisir ce que nous, on a envie d'accomplir dans l'œuvre de Dieu. Et ce venin est terrible. N'oubliez pas les effets que ça a fait. Cette séduction, elle est puissante. Là encore, il faut que l'on prenne garde de bien savoir ce que l'on veut dans notre vie spirituelle, dans notre engagement avec le Seigneur. Seigneur, je veux la vie. Donc, je veux choisir l'Esprit qui est en moi. Donc, j'ai besoin de prier, de jeûner pour que tu me révèles ce qui vient de la vie. Et au fur et à mesure, tu me révéleras ce qui vient de la vie, ma chair sera mise de côté et elle mourra, même si elle disparaît pas, mais elle sera mise de côté par la puissance de résurrection du Seigneur dans notre vie. C'est très important. Romains 8:13 nous le dit, ainsi donc, nous qui ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair, Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il ne parle pas là d'une mort physique, il parle encore d'une mort spirituelle. Même si la mort physique, dans ce contexte, peut intervenir. Mais c'est la mort spirituelle, c'est le dessèchement spirituel. Romains 10 nous dit aussi l'affection de la chair, c'est-à-dire l'affection de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. C'est-à-dire une odeur de mort qui va vous envahir. Parce que, vous allez lire, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est réglé. C'est réglé, mais combien de fois je vois que je choisis quand même les choses de la chair? Parce qu'il y a comme un miel bizarre qui nous attire, qui m'attire à désobéir. Le mot est peut-être un peu fort. Ou à contourner. On sait très bien le faire. Mais vous voyez, j'aimerais terminer par un court passage de Deutéronome 30, verset 19. Le Seigneur, vraiment, dans sa bonté, nous rappelle qu'il nous a laissés libres. Mais qui insiste pour que l'on choisisse la vie. Il va dire à son peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Je fais une digression. On le cite souvent pour les non-croyants. On a raison. Et puis on va leur dire, choisissez la vie pour qu'ils viennent au salut. Mais c'est valable pour nous aussi, les croyants. Parce que le chemin de la vie et de la mort, le chemin de la mort, reste. Il demeure. Et c'est à nous, alors, par la grâce de Dieu, de continuer à choisir la vie. Cette fois-ci, non plus pour entrer dans le salut, parce qu'on l'a, mais après, pour grandir dans la connaissance, pour croître dans la connaissance de la grâce et du Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis devant toi le chemin de la mort et de la vie, la bénédiction et la malédiction. Parce que je t'ai voulu libre, ça c'est moi qui le rajoute, parce que je t'ai voulu libre. Et il va dire, c'est vraiment que je veux vivre sur votre cœur ce matin. Choisis la vie. Pour choisir la vie. Et choisis la vie afin que tu vives. Parce qu'en choisissant la vie, tu choisiras Christ. Et en choisissant Christ, c'est lui qui vivra en toi. Et tu seras puissant en parole et en œuvre. Tu seras puissant dans ton témoignage. Tu seras puissant dans ta vie de famille. Puissant dans le sens spirituel, pas... Vous avez compris. Lumière du monde, celle de la terre, etc. Et là, on a toutes les paroles de bénédiction qui nous viennent. Cet héritage merveilleux que l'on peut trouver en Jésus-Christ, etc. Participant de la nouvelle Jérusalem, parce que tu choisiras la vie, et tu continueras tous les jours à choisir la vie, et en choisissant la vie, tu renonceras à la mort, tu renonceras à cet arbre qui peut t'apporter quelque part un miel bizarre, mais qui va te conduire à la mort. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et là, j'ouvre encore une parenthèse en disant, combien de frères et de sœurs me disent, mais je n'arrive pas à rentrer dans mon héritage, je n'arrive pas à demeurer dans le pays que l'Éternel m'a donné à travers Jésus-Christ, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Renonce à toi-même, porte ta croix, et tu verras que tu laisseras la place au Saint-Esprit pour créer dans ta vie ce que le Père veut y voir. C'est lui, la puissance de Dieu, qui accomplit la parole. Dieu passe dans nos vies à certains moments, il y a une parole, il sème une parole, mais pour que cette parole grandisse, il faut qu'il l'arrose par l'eau de la vie, par son esprit. Et pour que cette pousse puisse grandir, il faut que cette eau continue à couler et à couler encore. Donc il ne faut aucun obstacle. Il ne faut pas que soudain je me dis, tiens, j'ai un brevet d'architecte, je vais construire un barrage, comme ça je vais m'imaginer qu'en récupérant l'eau, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu te demande de renoncer à tout. Renonce à toi-même et laisse l'eau de la vie accomplir sa tâche. Ça, c'est la vision d'Ézéchiel, de cette eau qui sort du temple, qui déferle et qui va donner la vie. On dit qu'au bout de ce fleuve d'eau vive, il y avait la mer salée qui va assainir la mer morte pour donner la vie. Et il y a ces arbres sur la berge qui donnent leurs fruits tous les mois. Et leurs feuilles sont même des remèdes pour les hommes. Parce que l'eau de la vie n'est pas retenue, parce qu'il n'y a aucun barrage dans mon pays, parce qu'elle coule, elle coule, elle coule à flot, et cette eau de la vie, elle sort du temple, c'est-à-dire Christ qui vit en moi. Alors oui, tu entreras dans ton héritage, et tu en jouiras, toi et ta postérité. Le Seigneur vraiment, vous laissez cette pensée sur notre cœur. Choisis la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous accompagne et qu'il touche nos cœurs en profondeur, qu'il nous fasse grâce, grâce, grâce imméritée. C'est pas grave. C'est comme ça. Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi abondamment cette grâce, pour moi, pour ma postérité. Vraiment, j'ouvre mon cœur. Je veux absolument rien retenir. J'ouvre les portes. Seigneur, toi maintenant, s'il te plaît, par ta grâce, ouvre les écluses des cieux et répands l'eau vive pour que ta parole, celle que tu as semée dans ma vie, pour qu'elle puisse être arrosée, pour qu'elle puisse grandir et porter du fruit. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous bénisse tous en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous choisissons la vie. Nous choisissons la vie. Mais nous avons besoin d'être aidés. Nous avons besoin de ton esprit. Donc, je ne suis pas un grand intellectuel, mais à ce moment-là, je comprends que si je veux grandir dans la vie, il faut que tu me remplisses de ton esprit. Donc, je vais laisser tomber beaucoup de choses qui m'empêchent de chercher ta face, qui m'empêchent de chercher à être rempli du Saint-Esprit, qui m'empêchent et qui t'empêchent, toi, de couler à flot dans ma vie. J'ai besoin de ton esprit. Pardonne-moi toutes les fois où je bloque la sève du cèpe. Et que j'empêche d'aller irriguer le sarment pour qu'il passe, pour qu'il porte du fruit. Pardonne-moi, Seigneur. Et vraiment, que ton esprit ait pleine liberté pour accomplir l'œuvre du Père. Parce que notre but, notre Dieu, notre but, c'est que Dieu trouve sa pleine satisfaction. Oui, nous sommes faits pour toi. Tu nous as tirés de la boue du péché. Et maintenant, Nous sommes rentrés dans notre bon sens. Nous avons compris que notre vie ne nous appartient pas. C'est consacré. Ce matin encore, à travers la Sainte Cène que nous allons prendre, c'est comme si nous te l'offrions de nouveau sur l'autel du sacrifice. Que ta parole puisse découper nos vies comme il se doit, en offrande agréable à ce Dieu qui n'a pas hésité, lui, renoncer à son ciel de gloire pour venir mourir sur le bois d'une croix. Il a renoncé à tout, nous montrant ainsi l'exemple, et venant mourir sur le bois de la croix pour donner à nouveau la vie pour tous ceux et celles qui choisiraient la vie. Gloire te soit rendue, Seigneur, gloire et louange à ton nom, à ton œuvre, à ta pensée merveilleuse, à ton amour pour nos vies. Seigneur, tu nous emmènes dans ce fleuve d'eau vive, tu nous emmènes en toi, et nous nous retrouverons ensemble, unis, dans les liens du mariage, dans ce ciel de gloire qui nous attend, ce banquet des noces. Tu nous mets un anneau, et tu nous attends. Merci, Seigneur. Amen.
Parfait, parfait,